Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. La revue Ramsès, publiée par l'IFRI, dont l'édition 2020 a pour titre « Un monde sans boussole », se penche notamment sur l'Amérique latine. Une Amérique latine en fusion qui s'embrase depuis plusieurs semaines, émeute au Chili, en Équateur, en Colombie, au Pérou, en Bolivie, changement de cap en Argentine, crise politique et humanitaire au Venezuela, climat incertain au Brésil. Malgré les spécificités de chaque pays, c'est bien un même sentiment qui traverse la région, de colère, de frustration et de déception sur fond de grande incertitude alimentée par la stagnation économique avec une croissance qui devrait péniblement atteindre 0,2% à l'échelle du continent. Quel avenir pour l'Amérique latine chahutée entre expérience de gauche et populisme de droite, bouleversée par les flux migratoires, ravagée par les trafics de drogue et confrontée à un voisin du Nord imprévisible? Nos invités, Laurence Nardon, chercheur, responsable des programmes Amérique du Nord de l'IFRI. Laurence Nardon, dont je signale les podcasts hebdomadaires Trump 2020. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Dabène, professeur de sciences politiques à Sciences Po, président de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Bonjour.
Bonjour.
Les guerres menées par Washington depuis le début de ce siècle en Afghanistan et en Irak, d'un côté, le pivot vers l'Asie de l'autre, ont eu pour conséquence, dans une certaine mesure, que l'Amérique du Nord s'est éloignée de l'Amérique latine, Amérique du Sud et Amérique centrale. Et on a l'impression d'un réveil subi de Donald Trump avec une agressivité décuplée dans sa diplomatie, plus rien n'ayant grâce aux yeux des États-Unis, ni l'ALENA signée en 1994, ni les questions migratoires, volonté de construire un mur à la frontière américano-mexicaine. Arrêt brutal du rapprochement avec Cuba initié par Obama. Les États-Unis sont-ils toujours au cœur du dispositif en Amérique latine? Et de quoi parle-t-on de repli ou de rejet? Laurence Nardon.
Je pense que, de toute manière, l'Amérique latine a toujours été présente dans la politique étrangère américaine, mais jamais vraiment centrale. Ça a toujours été des ingérences qui n'étaient pas en haut de la liste de la politique étrangère américaine, qui était plutôt portée vers l'URSS dans les années de guerre froide, aujourd'hui vers la Chine, puis le problème permanent du Moyen-Orient. Néanmoins, il y a vraiment, vous avez raison, un repli américain, une fatigue de l'Empire qui ne date pas de Trump, qui date en réalité d'Obama. Il y avait une réticence à agir à l'étranger. Est-ce qu'elle s'est traduite dans la politique américaine, enfin états-unienne, sur l'Amérique latine? Ça n'est pas certain. Mais c'est vrai que le rejet est beaucoup plus vif depuis que Trump est là, puisqu'il y a une volonté marquée de se refermer face au monde extérieur, qui se traduit, vous l'avez dit, par la volonté de construire un mur à la frontière, qui existait déjà avant sous forme de clôture, on est bien d'accord. Mais enfin, c'est beaucoup plus net aujourd'hui. Et puis, la renégociation de l'ALENA, qui a été assez brutale, conduite à la baguette par l'administration Trump. Au-delà de ça, je crois que dans les... Enfin, je vais poser la question peut-être à Monsieur Dabène et avec vous, Marie-France Chatin, de savoir si, aujourd'hui, on n'assiste pas à quelque chose d'autre qui serait... l'importance du mauvais exemple que produit l'administration Trump face au reste du monde, est-ce que ce mauvais exemple d'une sorte d'indécence politique, de brutalité, d'agressivité, d'imprévisibilité, n'a pas un impact, une relation de causalité peut-être, avec les désordres qui se déroulent aujourd'hui dans le reste du continent vers le sud?
Alors Olivier Dabène, je me tourne vers vous, une réponse peut-être à cette question.
Oui, juste avant de répondre à cette, essayer de répondre à cette question, juste un petit mot. Je suis d'accord. En fait, les périodes de l'histoire où les États-Unis se sont vraiment intéressés à l'Amérique latine sont rares. En fait, il y a eu l'époque de Kennedy avec la flamboyante Alliance pour le Progrès. Mais en général, c'est plutôt, disons, une certaine indifférence. Ce ne sont pas là que se jouent les grands équilibres du monde, en fait. Sauf quand l'Amérique latine développe des expériences que Washington juge absolument inadmissibles. Donc, en général, des expériences de gauche ou un excès de violation des droits de l'homme. À l'époque de Jimmy Carter, par exemple, on considérait que les dictatures en Amérique latine en faisaient un petit peu trop. Donc, il y a des périodes comme ça de tension et on assiste à une de ces périodes. Trump, l'Amérique latine, c'est clairement pas sa priorité. Mais enfin, il aime pas Maduro, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il aime bien les dictateurs dans le monde, mais celui-là, non. Donc, il déploie pas mal d'efforts pour essayer de s'en débarrasser. Et pour l'instant, ça n'a pas marché, mais bon, il y a des sanctions économiques qui ont des effets assez ravageurs au Venezuela. Donc, il y a une certaine orientation. Alors après, il y a aussi l'obsession pour les thèmes migratoires qui fait que le Mexique est en première ligne, mais aussi l'Amérique centrale avec les caravanes de migrants que Trump voudrait voir stopper. Et il y est parvenu. Il a mis une pression assez importante sur le Mexique pendant cette année, en fait, 2019. Et il a réussi à faire en sorte que les flux diminuent beaucoup. Bon, et puis il y a le thème de l'accord de libre-échange, effectivement, qui a été renégocié de façon un peu rapide et brutale, c'est vrai, mais qui n'est toujours pas ratifié, d'ailleurs. Mmh. C'est un peu une course contre la montre aux États-Unis d'essayer de le ratifier avant les élections, avant la campagne électorale. Donc oui, c'est vrai. Alors après, il y a la deuxième partie, c'est la question de l'exemplarité. C'est vrai que quand on regarde Bolsonaro au Brésil, on l'a appelé le Trump brésilien, d'ailleurs. Bon, je pense pas que l'Amérique latine ait vraiment beaucoup besoin de modèles en ce qui concerne l'exubérance, le manque de fiabilité, le côté complètement imprévisible et un peu populiste de droite. Il y a, disons, une tradition en Amérique latine. Mais c'est vrai que, bon, il y a maintenant des orientations politiques qui sont décomplexées, je dirais. Et ça, l'exemplarité de Trump joue un rôle dans cette façon de dire absolument n'importe quoi et de s'attendre à ce que ça ne produise pas d'effets négatifs. Donc oui, d'une certaine façon, il y a un exemple, il y a un encouragement. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet avec les troubles actuels? Moi, je dirais que non, parce que c'est quand même très largement des questions de politique intérieure qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer, cette Amérique latine en fusion, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc non, là, je ne pense pas que ce soit vraiment l'effet Trump, disons.
Alors, on va bien sûr revenir de façon un peu plus approfondie sur chacun des thèmes. Je voudrais juste rebondir sur la question du Venezuela. On a bien vu que Trump aurait aimé que Juan Guaido gagne contre Nicolas Maduro. On imagine que finalement, les choses sont apparues à Trump de façon un peu plus compliquée. Toujours est-il que, on l'a dit, le président américain a reculé et Maduro est toujours là. Est-ce qu'on peut voir, Olivier Dabène, une sorte d'internationalisation de toutes les questions aujourd'hui en Amérique latine avec le contrepoids chinois et puis les Russes qui ne sont pas loin non plus?
Alors le Venezuela, c'est quand même un cas très particulier par rapport au reste de l'Amérique latine pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y a des enjeux économiques. C'est quand même les plus grandes réserves pétrolières du monde. Donc évidemment, il y a une lutte d'influence. Et les Chinois sont là, les Russes sont là, traditionnellement les Américains sont là depuis bien longtemps. Et il y a une situation politique intérieure qui est explosive, avec une dérive autoritaire. Le pays n'est plus une démocratie, le pays souffre. Donc il y a des gens qui partent, on mentionne les chiffres de plus de 4 millions de Vénézuéliens qui seraient sortis du territoire. C'est en passe de devenir le pays qui expulse le plus de population au monde, alors que c'est même pas un pays en guerre. Donc il y a un vrai drame qui peut pas laisser évidemment indifférent. Mais bon, pour ce qui est des grandes puissances, je pense que c'est quand même l'enjeu pétrolier qui est au cœur de beaucoup de prises de position et de débats. Bon, je pense que là, ce que l'on a vu cette année, en 2019, c'est effectivement une tentative d'un président qui s'est autoproclamé et qui a essayé de faire en sorte que la communauté internationale le reconnaisse, Guaido, comme vous l'avez mentionné, et que, d'une certaine façon, les pressions internationales conduisent à la destitution ou à la démission de Maduro. Ça n'a pas marché, et aujourd'hui, l'année se termine avec une certaine lassitude, je dirais. L'opposition ne sait plus trop bien comment s'y prendre. La communauté internationale commence à se résigner à ce que Maduro fasse preuve d'une étonnante résilience. Et par conséquent, le dossier il est complètement bloqué. La situation est vraiment bloquée. Le drame humanitaire se poursuit. Mais je pense que les États-Unis n'évoquent plus l'option d'une intervention militaire, comme ils l'avaient évoqué à plusieurs reprises. Et on n'a plus aucun pays en Amérique latine, de toute façon, qui souhaite une intervention militaire. Donc il y a des groupes qui s'organisent pour essayer de favoriser un dialogue. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Chaque fois que le gouvernement vénézuélien a accepté de dialoguer, en fait, on s'est rendu compte qu'il gagnait du temps. C'était juste une stratégie pour gagner du temps et faire en sorte que tout ça n'aboutisse pas.
En tout cas, ce qu'on constate, et je pense que l'exemple vénézuélien, effectivement, est révélateur de, finalement, une baisse d'influence, peut-être, sur le plan politique des États-Unis, Laurence Nardon, alors que les États-Unis sont le partenaire primordial pour toutes les économies latino-américaines. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà. Bien sûr, la question qui peut se poser, c'est penser, est-ce que les Américains ne sont pas en train de délaisser leur rôle de gendarme du continent américain? On a peut-être suffisamment dit de choses dans la première partie de l'émission. J'aimerais qu'on aborde des questions. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le fameux traité l'ALENA signé en 1994 et aujourd'hui revisité sous un autre nom. C'est l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui modifie les règles concernant le numérique, l'automobile et l'agriculture afin d'encourager le retour de la production aux États-Unis. On est toujours dans les sujets de Trump, candidat il y a trois ans et à nouveau candidat pour sa réélection en 2020. Donc on reviendra sur cet accord. Le mur et la question migratoire, elle n'est pas sans responsabilité des États-Unis. On abordera la question du trafic de drogue. En tout cas, ce qu'on voit, c'est une opinion américaine qui est pourtant favorable à l'immigration. Une enquête du Pew Research Center de janvier 2019 donne 62% des personnes interrogées aux États-Unis qui estiment que les arrivants sont une chance pour le pays. Il y a une certaine contradiction, Laurence Dardon.
Ce qui est certain, c'est que aux États-Unis, la question de l'immigration aujourd'hui, elle est explosive et elle est devenue extrêmement partisane. Dans l'histoire des États-Unis, jusqu'à peut-être il y a une dizaine d'années, les questions migratoires, elles n'étaient pas marquées gauche-droite. C'est-à-dire que vous pouviez être à gauche et être sceptique, voire réticent sur l'immigration. C'était le cas notamment des syndicats, historiquement, qui veulent pas avoir un afflux de main-d'œuvre dans le pays parce qu'il va faire baisser les conditions salariales. Hein, ça, c'est bien connu. Et puis, de l'autre côté, vous aviez, côté républicain, à droite, ce qu'on appelle les business republicans, qui, eux, étaient au contraire favorables à une immigration de travail pour fournir de l'emploi facile dans les usines ou plutôt dans les exploitations maraîchères au sud-ouest des États-Unis. C'est pour ça, par exemple, d'ailleurs, que la dernière grande loi de régulation de l'immigration illégale, des illégaux, comme on dit aux États-Unis, elle date de 1986, elle a été votée sous Reagan. Et donc, c'était bien quelque chose de bipartisan à l'époque. Et cette question, aujourd'hui, est devenue très, très marquée. Donc, si vous êtes démocrate, vous êtes favorable à l'immigration. Si vous êtes républicain, c'est l'inverse. Et on ne sort plus de là. Donc il y a une sorte de, comment dirais-je, de simplification, entre guillemets, du débat. Et donc Trump va travailler là-dessus dans sa campagne de réélection pour 2020. Ça va être vraiment un de ses grands marqueurs. Et le sondage que vous citiez de Pew, qui montre qu'une catégorie majoritaire de la population accueille l'immigration de manière positive, ça ne va pas l'empêcher de travailler ce thème pour sa base qui, elle, y est radicalement opposée.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, Olivier Dabène, cette question migratoire, elle est le reflet aussi de situations certes différentes, mais avec tout de même des bases que l'on retrouve dans tous les pays. C'est le trafic de drogue, la lutte contre le trafic de drogue, la violence, la corruption. Alors, la lutte contre le trafic de drogue, la militarisation, elle s'est faite sous contrôle américain, sous décision américaine. Il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour que des choses soient modifiées. En tout cas, elle n'a rien donné, cette politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors oui, c'est une politique sous influence américaine, absolument. C'est le président Nixon qui avait lancé la guerre contre les drogues dans les années 70. Et depuis, ça n'a pas cessé. Il y a eu des phases plus ou moins d'intensité. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les pays du triangle du Nord, en Amérique centrale, c'est-à-dire Guatemala, Honduras, Salvador, sont des pays qui sont... Alors certains emploient jusqu'au terme de narco-État ou de narco-démocratie pour désigner cette mainmise des cartels sur l'économie informelle et sur la vie politique, dans certains cas de certains de ces pays, avec des drames humanitaires. Ce sont des pays pauvres, et dans certains quartiers de villes dans ces pays, les jeunes n'ont pas d'autre opportunité de progrès social que de collaborer avec les narcotrafiquants, donc c'est dramatique. Et c'est pour cette raison qu'on a vu ces caravanes fuir en traversant tout le territoire du Mexique pour aller frapper à la porte des États-Unis et demander un statut de réfugié, parce que ils ont expliqué qu'ils étaient en danger de mort. Et c'est pas faux. Il y a vraiment danger pour la jeunesse salvadorienne, hondurienne, de morts à cause du narcotrafic. Et c'est vrai que les États-Unis ont toujours poussé pour une approche, disons, militarisée. Mmh. Les Mexicains disent que les Américains envoient les armes et qu'ils mettent les morts, parce que c'est vrai qu'à chaque année... On a des niveaux de violence qui sont quand même assez impressionnants pour des pays, encore une fois, qui ne sont pas en guerre. Le Mexique, par exemple, à partir de 2006, a déclaré la guerre aux narcotrafiquants. Résultat, l'année suivante, il y a eu 50 000 morts. Ce sont des niveaux de violence qui sont quand même assez faramineux et qui aident à comprendre pourquoi les familles qui sont assez pauvres souhaitent fuir. Et donc, bon, on se heurte aujourd'hui... Mais c'était déjà le cas, effectivement, sous Obama. Il ne faut pas exagérer. Obama a beaucoup déporté. Plus que Trump, d'ailleurs. Donc, évidemment, il y a la question du mur qui a attiré beaucoup d'attention médiatique. Et donc, il en a fait aussi tout un argument politique et un argument de campagne, évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas, de ce point de vue, le premier président à expulser ou à déporter massivement des populations centra-américaines, même si il y avait eu des progrès, les fameux Dreamers, hein, c'est-à-dire ces jeunes à qui on permettait de vivre avec des... disons, une certaine, dans la légalité de son territoire américain, et ça, Trump veut s'en débarrasser. Il y a un vrai drame, et en fait, personne ne sait véritablement comment s'y prendre. La manière dure, ce qu'en Amérique centrale, on appelle la mano dura, c'est-à-dire l'approche sécuritaire, ne donne pas de bons résultats. L'approche plus, disons, dans le registre de la prévention, de l'éducation, est une approche à long terme qui a donné certains résultats, mais enfin... La seule façon qu'un pays comme le Salvador a trouvé ces dernières années pour sauver des vies humaines, ça a été de favoriser une négociation entre cartels, ou plutôt entre bandes. Les maras, on appelle ça au Salvador. Il y a deux grandes bandes qui sont en guerre l'une contre l'autre. Ils ont organisé une négociation entre les chefs de bandes à l'intérieur des prisons pour leur faire signer un traité de paix, en quelque sorte. Et ça a marché pendant à peu près un an et demi. On a vu le niveau de la violence qui a beaucoup baissé. Alors évidemment, on ne tient pas compte de considérations morales ni quoi que ce soit. C'est un pays qui a juste sauvé des vies humaines, beaucoup de vies humaines pendant un an et demi. Et puis, disons que ça, il y a eu une rupture dans cet accord et le pays est redevenu ultra-violent. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il faut travailler à long terme. Et c'est surtout une question, je dirais, socio-économique. Il faut offrir des opportunités de progrès social à la jeunesse pour qu'elle évite de se tourner vers le narcotrafic. Mais ça, aucun pays, pour l'instant, a réussi à le faire de façon efficace et durable.
En tout cas, la criminalisation des acteurs et la militarisation de la répression, vous l'avez dit, ne donnent rien. Et un changement de stratégie réclamé par la majorité des pays concernés. Étant entendu, Laurence Nardon, que les gros consommateurs de drogue, ce sont quand même les Américains du Nord.
Oui, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs ces dernières années avec le scandale des opioïdes aux États-Unis, enfin qui touche beaucoup les États-Unis d'ailleurs, parce que il y a eu des scandales de prescription abusive de ces médicaments antidouleurs, hein, les opioïdes, et à partir de la fin des années 90-2000. Et lorsque, à partir de 2010, les médecins américains se sont rendus compte du drame de la dépendance que créaient ces médicaments, alors qu'en fait, ils avaient été marketés sur l'idée qu'ils ne rendaient pas dépendants, mais c'était un mensonge, eh bien, les consommateurs complètement en manque, voyant leurs prescriptions interrompues par leurs médecins, se sont tournés vers l'héroïne de rue qui venait des cartels de sud-américains. Néanmoins, depuis un peu plus tard, 2014-2015, une nouvelle offre s'est proposée aux consommateurs états-uniens venus de Chine. Et ça, c'est les opioïdes synthétiques que les gens peuvent commander très facilement sur Internet. Ça arrive par la poste et c'est produit dans des laboratoires en Chine. Et c'est le fentanyl, le carfentanyl, enfin des produits extrêmement dangereux. Et qui, du coup, les détournent un peu de l'héroïne venue d'Amérique latine. Je ne sais pas si ça a un impact sur la production et l'économie de l'héroïne en Amérique latine, du coup.
Une réponse peut-être à cela, Olivier Damen ?
L'Amérique latine a une capacité étonnante à diversifier son offre, hein, c'est-à-dire en fonction de la demande, ils vont privilégier tel ou tel produit. La cocaïne a eu des effets ravageurs depuis les années 80, hein, c'est une longue histoire déjà, et avec des enjeux économiques qui sont assez faramineux et avec des cartels qui sont extrêmement puissants. Hein, c'est-à-dire, on se rappelle toujours de Pablo Escobar qui avait à un moment donné proposé de rembourser la dette extérieure de son pays, à lui tout seul. Cash. Voilà, c'est impossible de lutter à armes égales contre des cartels qui représentent une puissance économique de cette envergure.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Olivier Daben et Laurence Nardon après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Amérique latine et les États-Unis. Nous retrouvons nos invités. Laurence Nardon, chercheur, responsable des programmes Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Laurence Nardon qui est aussi l'auteur de podcasts Trump 2020, des podcasts hebdomadaires. Et Olivier Daben, professeur de sciences politiques à Sciences Po, président de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Laurence Nardon, nous avons parlé dans la première partie de l'émission des questions migratoires avec ces flux de centre-américains qui cherchent à gagner les États-Unis et la fermeture imposée par Donald Trump et des pressions sur le gouvernement mexicain. Où en est la construction du mur, grand projet de Donald Trump aujourd'hui ?
Ben, la première chose à rappeler, c'est que, comme l'a dit Olivier Daben tout à l'heure, sous les présidents précédents, il y avait déjà une volonté de fermer cette frontière avec beaucoup de renvois de personnes. Le mur, il existe déjà. Hein. C'est une clôture qui a été votée dès l'administration Bush et qui a été construite sous Obama. Hein. Entre 2007 et 2015, il y a 1000 kilomètres de clôture qui existent à la frontière déjà. Et donc Trump, lui, son slogan, le mur, effectivement, c'est plus ambitieux, on va dire. Il y a des prototypes qui sont à l'étude. Hein. Il a déjà d'ailleurs été... Il a contracté avec un certain nombre d'entreprises pour faire des prototypes. Certaines entreprises sont d'ailleurs allées à Ceuta et Melilla, au nord du Maroc, voir comment les murs sont construits. Donc il en faut 3 d'affilée, il faut mettre des barbelés en fort. Enfin, il y a tout un tas de techniques à l'étude assez cruelles. Et il en a choisi un qui va être construit, sachant que il réclame 5,7 milliards de dollars pour la construction de ce mur, que le Congrès n'en a donné que 1,4. Et donc, il y a quelques mois, il a pris une mesure d'urgence pour débloquer des fonds du département de la Défense, pour les allouer à la construction de ce mur, disant que c'était une urgence nationale. Alors évidemment, il y a eu des recours, et récemment, la Cour suprême a statué disant que cette utilisation de fonds de la Défense était constitutionnel, donc ils pouvaient le faire. Et donc là, il y a 91 kilomètres de murs qui sont en train d'être construits dans la région d'El Paso. Donc voilà où en est le mur, pour répondre vraiment très clairement à votre question.
Le Mexique, Olivier Daben, il se retrouve dans une position plutôt assez délicate avec ce mur donc au nord de sa frontière. Et puis, il y a un président américain qui a demandé au gouvernement et au président mexicain de faire un contrôle au sud du Mexique. Comment tout cela est-il géré par le gouvernement mexicain ?
Déjà, il faut rappeler que Trump avait prétendu pendant sa campagne qu'il ferait payer le Mexique. C'est-à-dire qu'il voulait construire un mur payé par les Mexicains. Les Mexicains s'y étaient toujours opposés. Pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal, puisqu'effectivement, ce sont plutôt les militaires américains qui vont devoir débourser les sommes envisagées. Les Mexicains, oui, ils sont dans une situation qui est très délicate. Ils sont sous la pression du gouvernement des États-Unis pour que diminuent les flux migratoires de centre-américains, pas de Mexicains. Donc, c'est un territoire de transit. Alors que traditionnellement, c'était plutôt les Mexicains qui allaient aux États-Unis. Il y en a beaucoup moins qui essayent de rentrer aux États-Unis maintenant qu'il y a 10 ou 20 ans, ou 50 ans, ou 60 ans.
C'est grâce au marché commun nord-américain
Oui, il y a eu, si vous voulez, l'épisode crise économique en 2008 aux États-Unis, qui a fait que les gens sont retournés chez eux parce qu'il n'y avait plus de travail aux États-Unis. Mais en l'occurrence, maintenant, donc, c'est plutôt le Mexique comme territoire de transit et donc les États-Unis qui collaborent avec leur politique, en fait. Et d'ailleurs, les Mexicains, c'est un peu un système de poupées russes, font la même chose maintenant avec le Guatemala. C'est-à-dire ils sont en train de militariser leurs frontières Mexique-Guatemala pour faire en sorte d'arrêter les Guatémaltèques et ceux qui viennent encore plus du sud, c'est-à-dire les Honduriens et les Salvadoriens, pour les arrêter à la frontière guatémaltèque et éviter qu'ils traversent le territoire. Mais c'est difficile. Ils sont mal équipés. Traditionnellement, il n'y a pas vraiment beaucoup de contrôle dans ces régions-là. Donc c'est pas très difficile de traverser la frontière Guatemala-Mexique.
C'est une région compliquée par ailleurs.
Région montagneuse avec beaucoup de forêts. Enfin, c'est là qu'il y a eu la révolte zapatiste. Hein. Donc ce sont des régions qui sont pas très faciles à contrôler. Donc c'est vrai que le Mexique se trouve dans cette situation. Moi je trouve qu'ils ont été plutôt efficaces. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres pendant cette année 2019, ils ont diminué de façon assez drastique les flux migratoires. Donc pour l'instant, ils s'en sortent assez bien, je dirais.
Alors, on va poursuivre sur le dossier latino-américain dans l'article que vous avez écrit, Olivier Daben, dans la revue Ramsès 2020, Un monde sans boussole sur l'Amérique latine. Vous parlez de nouveaux climats de guerre froide en Amérique latine. De quoi est-il question ?
En fait, c'est pour faire référence, si vous voulez, à un degré assez inédit de polarisation politique dans la région et l'installation d'un climat de haine qu'on n'avait pas vraiment vu depuis longtemps, en fait, depuis l'époque de la guerre froide, je pense. C'est pas tellement pour faire référence à un climat international, c'est plutôt le climat en Amérique latine, où on voit beaucoup de haine dans la vie politique, des candidats qui s'insultent, qui se détestent, des gens qui font des affirmations d'une extrême violence, et donc des positions qui sont absolument irréconciliables. Et donc on a un petit peu un jeu politique qui est très dangereux, parce que qui peut à tout moment, si vous voulez, être violent. Et on en a la preuve sous les yeux avec le Chili en ce moment, quand même un pays qui était le pays le plus développé d'Amérique du Sud, le pays modèle, etc., où il y a un déchaînement de violence qui est absolument sidérant et dont on ne voit pas l'issue, parce que ça fait maintenant plus d'un mois et demi que ça dure, et le gouvernement a les plus grandes difficultés à ne serait-ce que faire préserver l'ordre public. Et on a vu, je sais pas, Bolsonaro, le candidat brésilien, quand il était en campagne, tenir des propos hallucinants, racistes, homophobes, d'une extrême violence. Donc on n'avait pas vu ça depuis longtemps, c'est étonnant. On voit ça dans d'autres régions du monde, hein. Je suis pas en train de dire que l'Amérique latine est de ce point de vue complètement différent, mais c'est ce climat de position politique très polarisée et irréconciliable qui m'a fait évoquer ce climat de guerre froide.
Alors, une sorte d'exaspération aussi vis-à-vis des résultats peu convaincants de la démocratie en Amérique latine, avec finalement des inégalités très fortes qui perdurent, de la violence, la corruption. Donc on retrouve finalement un peu tous les mêmes ingrédients que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Mais en tout cas, c'est cela. Alors, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vient faire la guerre froide là-dedans ? Enfin, je veux dire...
Non, c'est un climat de polarisation. La guerre froide, c'était une époque où il y avait des positions irréconciliables. La recherche du consensus était vouée à l'échec. On était dans l'affrontement et des positions politiques radicalement différentes. C'est ça, le climat. C'est pas une référence à, disons, au climat international. Hein, c'est de la politique intérieure. Après, oui, il y a des raisons. Il faut être quand même prudent. Nous, on dit toujours, quand on fait de la science politique, c'est pas parce qu'il y a une simultanéité de crise qu'il y a les mêmes causes. Il peut y avoir simultanéité entre plusieurs crises sans que les causes soient forcément les mêmes. Et si on compare, je sais pas, la Bolivie, c'est une crise électorale. Enfin, il y a de la fraude. Donc, ça n'a rien à voir avec le Chili, par exemple, qui sont pas très éloignés géographiquement, mais qui sont fondamentalement différents. Et ça n'a pas grand chose à voir non plus avec la Colombie, où on voit des gens dans la rue, mais il y a un contexte de mise en œuvre d'un accord de paix qui est très difficile. Donc, chaque pays a sa particularité. Mais il y a un climat général, oui, sans doute. L'Amérique latine a fait beaucoup de progrès sociaux pendant une bonne décennie. Les inégalités ont diminué et ces progrès ont été brutalement interrompus, ce qui est en général la recette pour que les gens soient particulièrement frustrés. Et par-dessus le marché, quand ils ont l'impression que les gouvernements sont sourds et aveugles, et que donc il n'y a pas de capacité de réponse, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Chose qu'on a vue en France, hein. Donc c'est pas non plus si typiquement latino-américain, mais enfin il y a cette composante, oui, la démocratie marche mal, certains secteurs s'estiment pas représentés, donc du coup ils détestent les hommes politiques en général et le système représentatif aussi, et par conséquent ils se déchaînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autres formes d'expression.
Alors, on va parler de l'emprise économique de la Chine en Amérique latine. Elle est puissante et elle est forte. En tout cas, ce qu'on voit aussi, Laurence Nardon, c'est la rivalité sino-américaine trouver toute sa place sur ce continent. La Chine et l'emprise de la Chine, c'est un risque pour l'Amérique latine. Enfin, en tout cas, côté américain, comment cette rivalité est-elle perçue sur l'Amérique latine ?
Je suis... pas sûr que ce soit un problème très important, bien à tort d'ailleurs, conceptualisé à Washington aujourd'hui, enfin en tout cas au sein de l'administration Trump. Ce qui est vrai, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il y a un certain repli américain, mauvais exemple, etc. Et puis comme la nature a horreur du vide, il y a cette avancée de la Chine, mais qui est sui generis d'une certaine manière, parce que la Chine avance dans toutes les parties du monde depuis de nombreuses années, depuis surtout l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. On le voit en Afrique, mais en Amérique latine, c'est un autre champ d'avancée pour la Chine, partant de rien en 2008, quand la Chine a fait son premier livre blanc sur l'Amérique latine, elle a commencé à investir le pays au point que aujourd'hui, les échanges de biens entre Amérique latine et Chine sont égaux, à peu près équivalents aux échanges de biens avec les États-Unis. Donc la Chine est devenue un partenaire équivalent. Alors toute la question c'est qu'on pourrait se poser, bon, je pense que certaines personnes se posent à Washington, c'est de savoir si, comme en Afrique, la Chine a donc une ambition économique, des échanges, elle fait venir des matières premières, elle exporte ses produits manufacturés, ok. Est-ce qu'elle a, au-delà de cette emprise économique, une volonté, une ambition, un plan sur le plan politique? Et là, tout est permis, si vous voulez. On sait que la Chine réclame à tous ses partenaires économiques la reconnaissance de la Chine versus Taïwan. Ça, c'est, la première case dans le jeu de loi chinois. Mais il y a aussi le soft power chinois, avec des instituts Confucius qui se développent. Il y en a 43 sur le continent sud-américain aujourd'hui. Et puis, une emprise politique croissante, notamment par le biais de la dette. Et là, on est dans un système vraiment extrêmement dangereux pour les pays d'Amérique latine qui acceptent des prêts chinois faramineux. L'Équateur a notamment reçu 19 milliards de prêts chinois dans les dernières années.
Et se voit contraint aujourd'hui de vendre au prix le plus bas 80% de sa production de pétrole à Pékin.
C'est qui, oui, je crois d'ailleurs que,
enfin, pour rembourser cette dette.
Je crois qu'ils ont obtenu de le vendre au prix du marché maintenant, donc ça va à peu près. Mais enfin, ils sont étranglés pour rembourser leur dette. Donc ils sont dans une sorte de système de servitude pour des années vis-à-vis de la Chine. Et je pense que ça, c'est quand même très, très dangereux.
Alors la Chine, Olivier Damen, c'est un vrai sujet en Amérique latine. Au récent sommet des BRICS à Brasilia, on a vu Jair Bolsonaro déclarer que la Chine faisait partie et de plus en plus partie de l'avenir du Brésil. Là où pendant sa campagne, il y a juste un an, il déclarait qu'il accusait la Chine d'acheter le Brésil. Il a fait un tour de...
Oui, il fait ça assez régulièrement. Mais là, oui, c'est spectaculaire. Il s'est rendu compte des réalités, tout simplement. Parce que les chiffres que vous citiez d'une équivalence entre les exportations chinoises et américaines, c'est pour toute l'Amérique latine, donc il y a le Mexique. Et le Mexique était trompeur, parce que le Mexique fait 80% de son commerce avec les États-Unis. Mais si on regarde le reste, et en particulier l'Amérique du Sud, la Chine est le premier partenaire commercial maintenant, et notamment les grands pays, le Brésil en tout particulièrement. Donc effectivement, Bolsonaro, il s'est rendu compte qu'il s'était tiré une balle dans le pied, et que donc il est vite revenu à la réelle politique, c'est-à-dire le Brésil ne peut plus se passer de la Chine. La Chine achète tout, presque. Mais c'est aussi le cas de l'Argentine. Enfin, c'est aussi beaucoup de pays aujourd'hui sont devenus dépendants de la Chine, y compris pour la dette, effectivement. Et la production pétrolière du Venezuela est préemptée pour longtemps par les Chinois. Du coup, je suis d'accord, il y a des doutes concernant est-ce qu'ils ont un dessein politique, est-ce qu'ils ont des objectifs autres que simplement aller chercher des matières premières comme ils le font en Afrique, ils le font en Amérique latine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils privilégient la stabilité politique parce qu'ils ont des investissements très importants. Donc ils ont par exemple pas intérêt à ce que le Venezuela soit encore plus une situation chaotique. Donc avec les Russes, ils sont encore parmi les pays qui soutiennent Maduro ouvertement. Alors évidemment, il y a aussi un côté, puisque les États-Unis s'y opposent, nous on va enfoncer un coin. Il y a des rivalités géopolitiques à l'échelle de la planète et l'Amérique latine est une carte dans ce jeu complexe. Et probablement, ça fait plaisir aux Chinois aussi d'être présents politiquement dans ce continent qui est l'arrière-cour des États-Unis. Il y a un peu de ça aussi. Mais il y a aussi des arguments très concrets, sonnant et trébuchants. Il y a effectivement des milliards qui ont été prêtés. Et donc, comme tous les prêteurs, ils sont soucieux de la stabilité politique de la zone.
Alors, oui, Laurence, non. Ce qu'on voit récemment, c'est vraiment la montée en puissance de ce dessin chinois, de cette projection de puissance politique. Et il est vrai que la Chine, on a eu une conférence à l'IFRI récemment, où il y avait des Chinois qui nous expliquaient les valeurs chinoises qui sont pas des valeurs démocratiques, mais des valeurs de respect de l'autorité, de sécurité, de stabilité, et qu'ils mettent en avant. Enfin, c'est vrai qu'ils proposent, alors moins brutalement que les États-Unis ont pu le faire dans leur phase néoconservatrice où ils voulaient exporter leur démocratie, mais il est vrai que les Chinois propose un modèle politique qui n'est pas celui de la démocratie, mais dont ils vantent d'autres mérites. Et pour des pays comme les pays latino-américains, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des conséquences.
Alors, deux thèmes pour terminer cette émission sur l'Amérique latine et les États-Unis. On a très rapidement parlé de l'Équateur dans sa relation avec la Chine. Parlons de la Bolivie. On a vu le président Evo Morales partir se réfugier au Mexique, Olivier Dabène, après que l'armée lui ait dit que voilà, ce serait bien qu'il prenne un petit peu le large. J'aimerais qu'on parle rapidement des militaires, et on le voit aussi au Brésil, de façon beaucoup plus souterraine. Les militaires se voient aujourd'hui, alors on les a vus dans notre période de l'Amérique latine, expulser des leaders de gauche pour imposer des dictatures de droite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils se voient, les militaires aujourd'hui en Amérique latine, d'une certaine manière comme des arbitres politiques de dernier ressort plutôt que comme des acteurs. C'est un vrai changement. Après ça, on parlera de l'importance des églises évangéliques. Olivier Dabène.
Oui, je partage votre analyse, hein, c'est-à-dire sont des arbitres, ils sont là, ils sont présents dans le jeu politique et on a besoin d'eux, on fait appel à eux. Parfois, on les voit intervenir un peu contre leur volonté. Je pense qu'en Bolivie, tout particulièrement, ils n'étaient pas très enclins à prendre une position politique comme ils l'ont fait. Je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point l'armée est présente dans le jeu politique, mais pas trop. Et je pense qu'on n'a pas affaire à des militaires qui souhaitent reprendre les affaires en main, comme on a pu le voir dans les années 60 ou 70, alors même qu'il y a des situations qui sont quand même très explosives. Donc, ils sont plutôt dans la retenue, mais c'est vrai, on va les chercher, on va les solliciter. Ils ont une bonne image dans l'opinion publique en général, sauf suite à des manifestations où on voit une militarisation de la répression qui la passe mal, mais en général, ils sont une force qui représente une certaine retenue, je dirais, pour l'instant.
Alors, l'influence gagnée par les églises évangéliques, j'en reviens à lui, Bolsonaro au Brésil, son élection l'année dernière en est une illustration. Cette affirmation évangélique, elle s'étend de plus en plus en Amérique latine. Est-ce qu'on peut parler de vecteur d'influence pour les États-Unis? Est-ce que, Laurence Nardon, la religion pourrait permettre à l'oncle Sam de retrouver une influence progressivement perdue en Amérique latine?
Ce qui est certain, oui, c'est qu'il y a une correspondance entre les évangéliques aux États-Unis, qui représentent 25% de la population, qui sont une part non négligeable de l'électorat de Trump et qui sont très conservateurs, et les mouvements évangéliques en Amérique latine. Il y a des traditions de missionnaires très anciennes. Ceci dit, je m'y connais pas assez sur le mouvement évangélique en Amérique latine pour savoir s'il provient ou s'il est financé par l'Amérique du Nord ou s'il est autofinancé ou ça vient d'autre part.
Olivier Dabène.
Je pense que ça a été le cas, mais il y a déjà un certain nombre d'années et qu'aujourd'hui, les églises évangéliques les plus puissantes sont les églises brésiliennes. Ils sont richissimes, vraiment. Ce sont des empires, en fait, financiers, médiatiques, très, très influents. Et c'est vrai que Bolsonaro en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, déjà de Lula, en 2002, lors de sa première élection, il avait fait campagne en s'alliant avec l'église évangéliste. Et ça lui a apporté les 2 millions de voix nécessaires à son élection. Donc c'est pas récent. Et par ailleurs, l'influence est difficile à mesurer parce que si on regarde ces 2 dernières années, oui, on voit les évangélistes qui ont soutenu un candidat d'extrême droite, Bolsonaro, au Brésil, mais ils ont aussi soutenu un candidat de gauche au Mexique, López Obrador. Il y a un mouvement qui s'appelle l'Encuentro Social qui a appelé à voter pour lui alors qu'il est de gauche et il a gagné. Donc ils sont très influents. Mais c'est pas facile de catégoriser si c'est plus à droite, plus à gauche. C'est très conservateur au plan des valeurs. C'est vrai que c'est un acteur qui est devenu incontournable, ne serait-ce que parce que c'est une puissance financière assez spectaculaire et parce qu'il gagne des adeptes. Et c'est vrai, ce sont des églises qui grandissent aujourd'hui. Et on le voit à chaque fois qu'il y a des sondages, on voit diminuer la part de la population catholique partout en Amérique latine. Donc c'est un acteur politique, à l'évidence, qui joue aussi du discrédit qui frappe actuellement les hommes politiques et les partis politiques. C'est devenu un acteur politique incontournable, sans aucun doute.
L'Église catholique qui paye peut-être ses engagements passés et le non-soutien à la théologie de la libération et autres dossiers. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Laurence Nardon, je rappelle que vous êtes chercheur et responsable des programmes Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et je signale votre podcast hebdomadaire pour suivre la campagne du président américain, podcast qui s'intitule Trump 2020. Et Olivier Dabène, professeur de sciences politiques à Sciences Po, président de l'OPAL, que l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et je rappelle donc la sortie de la revue Ramsès, dont l'édition 2020 a pour titre Un monde sans boussole, l'Amérique latine en fusion. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez. À très bientôt.
Musique du monde.